donc vers un lectorat féminin plutôt jeune, et ensuite qu'on appelait la chiclite, hein, d'après le terme familier chic qui désigne une jeune fille dans l'argot américain. Et suite à un voyage aux États-Unis, c'est une employée de la maison d'édition Bragelonne qui avait découvert ce nouveau genre, donc la littérature vampirique pour jeunes femmes avec toujours une histoire d'amour, et c'est elle qui a créé de toute pièce le terme bitlit, de bite, mordre, et de literature, littérature. Le mot a connu un succès très mérité, il est passé dans le langage courant. Donc nous parlons là avec la bitlit d'une littérature de vampires, de romans d'amour avec des héroïnes, et c'est une littérature qui a renouvelé le genre avec un succès immense. Hein. Pendant quelques années, la bitlit, ça a marché du tonnerre de Dieu. Il faut dire que, d'une part, la créativité et l'inventivité des auteurs, qui sont toutes des femmes, est sans aucun doute la clé de ce succès qui a modifié de façon durable l'image traditionnelle du vampire et accessoirement celle du loup-garou, parce que très souvent, on mélange les deux, le vampire donnant l'image de la créature sophistiquée, le loup-garou, celle de la créature plus primitive. En général, parce que bien entendu, il y a toujours des exceptions. Donc, comme je le disais, c'est un succès. Le succès de ce sous-genre a été immense. Il y a des dizaines de séries existantes, et ce sont, pour moi, toutes les variations qu'on peut trouver à l'intérieur, qui font toute la richesse de ces univers, qui en fait, quand on les analyse, sont toujours basés sur un ressort très simple de ce qui était, de ce qui est la littérature populaire traditionnelle. Hein. On a une jeune femme qui tombe amoureuse de l'homme qu'il ne faut pas, ou qui fait face à un choix impossible entre deux hommes. C'est vraiment aussi basique que ça. Et dans la bitlit, le principe de base, donc, c'est que nous avons toujours affaire à une héroïne, qui peut être totalement humaine comme Bella dans Twilight, hein, ce que vous voyez, donc le premier volume de Twilight, le succès de Stephenie Meyer, ou comme Elena dans la série à succès Journal d'un vampire de Lisa Jane Smith, hein, donc, que vous voyez ici, ou encore avoir des pouvoirs particuliers comme Suki Stockhouse dans ce troisième succès planétaire qui a été La communauté du Sud de Charlène Harris, qui est passé aussi à la télé sous le nom alternatif de True Blood. Donc nous trouvons, on voit bien les images, hein, elles s'affichent bien à chaque fois. Bon. Nous trouvons donc aujourd'hui des vampires qui vivent dans leur siècle, qui sont en jean et en t-shirt ou en costume trois pièces d'homme d'affaires. Ils sont souvent penchés sur leurs ordinateurs. Non seulement ils peuvent supporter le soleil sans être gravement brûlés ou tués, mais ils peuvent être aussi tout à fait indifférents aux signes religieux. Si l'on n'y croit pas, ils ne fonctionnent pas, ou sensibles seulement à ceux de la religion dans laquelle ils avaient été élevés lorsqu'ils étaient humains. Quant à leur régime alimentaire, il est devenu très éclectique. Hein. Certains vampires peuvent se nourrir de sang animal au lieu de sang humain, ils boivent du sang en poche, ils boivent même du sang artificiel, ils peuvent absorber des liquides autres que le sang, par exemple de la bière, et surtout beaucoup de vampires sont amateurs de bon vin. Et les vampires épicuriens peuvent même déguster en plus de vrais repas, soit pour le plaisir, soit comme substitut ou comme complément de leur régime qui est à base d'hémoglobine normalement. Le seul point qui ne change guère par rapport aux vampires traditionnels, c'est qu'ils doivent dormir le jour ou au moins faire une bonne sieste. Bon. Et donc, le socle de la bitlit, comme je le disais plus tôt, c'est une histoire d'amour. Alors, dans les séries, là, il faut distinguer. D'une part, dans les séries pour adolescentes, il y a des émois qui sont plus simples, mais tout en étant aussi douloureux, hein, que chez les adultes. Donc, la question, toujours, c'est « Puis-je aimer ce garçon ? Dois-je l'aimer ? Et jusqu'où puis-je aller ?» Hein, par exemple, Kali, dans la série Vamps de Nancy Collins, tombe amoureuse de Peter Van Helsing, qui, comme son nom l'indique, est un chasseur de vampires, fils de chasseur de vampires, petit-fils de chasseur de vampires, arrière-petit-fils de chasseur de vampires. Quand on est vampire, ça pose évidemment un cas de conscience. De même, Rose, dans Vampire Academy de Richard Mead, adore son tuteur Dimitri, mais c'est un amour impossible puisqu'ils sont tous les deux gardiens et protecteurs de leur maître Moroï, et il ne faut pas en plus négliger le fait qu'il va être transformé en Strigoï, c'est-à-dire en l'un de ces vampires noirs qui menacent leur maître. Donc là aussi, quand même, problème. Dans les séries pour jeunes adultes, la situation se complique. Il s'agit le plus souvent d'un choix impossible entre deux soupirants. Alors, un soupirant humain, l'autre surnaturel. Par exemple, dans l'excellente série Vicky Nelson de Tania Huff, celle-ci hésite entre Henry, qui est un beau vampire anglais très distingué, et Mike Cellucci, qui est un beau policier italo-américain nettement moins distingué. Ou alors, l'histoire d'amour est très difficile, insistant souvent, comme je viens de le faire remarquer, sur la différence d'éducation entre les vampires, qui sont des créatures anciennes, à l'éducation d'un autre âge, considérant encore les femmes comme des petites choses fragiles qu'il faut absolument protéger et posséder. C'est le cas, par exemple, du très distingué professeur Mathieu Clermont, vampire issu d'une très vieille famille aristocratique française, dans le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Et là, évidemment, c'est le genre de choses qui passent très mal avec nos héroïnes, qui le plus souvent sont des femmes modernes, des femmes libérées, qui ont un travail, et le plus souvent d'ailleurs un travail qui implique la maîtrise d'un certain nombre d'armes et de techniques de combat plus ou moins sophistiquées. Mais bon, il faut bien reconnaître que la créativité des auteurs et des séries de Bitlit commence à s'épuiser un petit peu en ce qui concerne l'aspect proprement vampirique. Ah, excusez-moi, comme d'habitude, voilà. Donc, comme je le disais, cette créativité semble commencer à s'épuiser un petit peu, comme d'ailleurs aussi l'intérêt des lecteurs, bien que certaines séries soient encore excellentes, comme par exemple, je ne résiste pas au plaisir de la citer parce que je la trouve remarquable, c'est la toute récente Le sang du rock de Jerry Smith Reddy, qui est tout à fait créative avec cette idée de vampire qui reste coincé psychologiquement dans l'époque à laquelle ils ont été transformés, donc ne peuvent pas évoluer. Et là, on n'a affaire qu'à des musiciens, donc c'est absolument remarquable. Et en plus, les bandes-son des livres sont excellentes pour les amateurs de différents genres de musique américaine. Alors, en fait, pour essayer de remédier à cette lassitude, donc, soit les séries mêlent allègrement des créatures de la nuit de toutes sortes, faisant appel aussi à différentes mythologies. Le plus souvent, d'ailleurs, on constate que c'est la mythologie grecque, sans doute parce que c'est l'un des fondements de notre culture et de notre éducation, celle qui parle le plus à la majorité des lecteurs et lectrices. Mais il faut dire aussi que les auteurs développent des séries qui sont centrées sur d'autres créatures. Alors, bien entendu, il y a les loups-garous, classique, donc comme dans la série d'Andreas Kremer Nightshade, où là on suit les aventures de loups-garous et de leur meute, ou encore Patricia Briggs, grand auteur bien connu de Bitlit et de Fantasy, avec la série Alpha et Omega. Mais il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui les démons sont devenus très à la mode. Alors, un exemple, c'est par exemple la très drôle série Morgan Kingsley de Jenna Black, où c'est une exorciste qui est possédée par un démon. Bon, ça permet comme ça, dont elle tombe amoureuse, bien entendu. Donc ça permet comme ça de faire des variations amusantes. On a aussi, par exemple, la série Jill Kismet de Lilith Saint-Croix, où là, Jill Kismet est une chasseuse de démons qui manie le sabre, qui est une des armes favorites des héroïnes de ces séries. On a plus récemment la série Ange déchu de J. Howard, qui là est plus curieuse, puisqu'il s'agit... Dieu commence à être fatigué de la lutte éternelle entre le bien et le mal, donc il a décidé qu'il était temps d'en finir et que l'un des deux côtés gagne. Donc cette lutte éternelle va être arbitrée par un homme, Jim Heron, qui a été choisi parce qu'il a un parfait équilibre de personnalité. Il est 50% bon et 50% mauvais. Parfait équilibre, donc anges et démons sont mis d'accord, c'est le bon. Donc c'est à lui qui, c'est lui qui va décider de notre sort à travers cette mission, et selon que ces sept missions seront en faveur du bien ou du mal, Dieu ensuite dira, voilà, on tire la conclusion. C'est assez curieux, il y a déjà deux volumes de sortie. Alors, il y a encore un sous-genre dans le démoniaque auquel je ne résiste pas, qui est illustré par une variante que j'appelle la variante succube. Je ne résiste pas au plaisir de la citer parce que c'est une série qui pour moi est courte, elle compte que 6 volumes, et qui est très réussie. C'est la série Succubus de Rachel Mead, hein, où l'héroïne est libraire à San Francisco et en même temps succube. Et naturellement, comme c'est une gentille succube, pomper l'âme des gens qui sont méchants, ça la dérange pas trop. Mais évidemment, quand elle tombe amoureuse de l'homme idéal et que chaque fois qu'ils doivent s'amuser ensemble, elle sait qu'elle lui raccourcit sa vie et qu'elle l'envoie un peu plus loin en enfer, ça pose un cas de conscience très douloureux. Chasteté ou amour. Bon, donc une série que je recommande beaucoup, celle de Rachel Mead. Cela dit, là donc c'était un tour d'horizon hyper rapide, mais si vous souhaitez tout connaître des séries relevant de la bitlit, hein, je ne peux que vous conseiller de consulter l'excellente bibliographie d'Alain Sproel qui est sortie l'année dernière, qui est sans doute le travail le plus complet qui existe à l'heure actuelle. D'ailleurs, je crois que Alain Sproel aura un stand ici demain et après-demain. Et vraiment, c'est très complet, d'autant plus qu'il donne aussi les prévisions, puisqu'évidemment, il y a quasiment un an qui s'est écoulé depuis qu'il a fait cette bibliographie, et il y a beaucoup de parutions, mais il avait déjà prévu un certain nombre d'entre elles. Donc ça reste encore assez bien à jour. Donc, alors, comme je vous le disais en commençant, hein, il semblerait donc qu'une certaine lassitude des lecteurs soit apparue depuis un ou deux ans en France vis-à-vis de la bitlit, et encore un petit peu plus tôt, comme toujours, aux États-Unis, et que le fantastique, donc, soit en train de muter à nouveau avec le développement de ce que l'on appelle maintenant l'urban fantasy, ou fantastique urbain. Alors, pour essayer de définir cette urban fantasy, je dirais que là, la différence, c'est que d'abord, les auteurs sont des deux sexes. Hein. Il y a aussi bien des hommes que des femmes. Il y a aussi des héros comme des héroïnes. Et que l'action se déroule principalement ou exclusivement en milieu urbain, de préférence dans des grandes métropoles comme Londres ou New York, et dans des métropoles contemporaines, hein, c'est pas le futur, etc. Ou comme par exemple dans le cas de par exemple de la série d'Annie Valentine, ça se passe dans le futur et dans une ville qui n'existe pas. Non. Là, nous sommes dans des villes qui sont dans des villes contemporaines, qui sont hantées par des créatures diverses, le plus souvent magiques. Quant au héros ou à l'héroïne, c'est un être humain qui est doté, ou pas dans certains cas, de pouvoirs magiques ou spéciaux qu'il découvre et qu'il développe. Il n'y a pas ou peu d'histoire d'amour. La psychologie du personnage et ses réactions face à la découverte et à l'utilisation de ses pouvoirs sont ce qui est privilégié. Autre point important, et c'est peut-être un bon point quelque part, il ne semble pas que le genre du fantastique urbain favorise les séries interminables. Ce sont le plus souvent soit des romans uniques, soit des trilogies. Bien entendu, j'en citerai tout à l'heure, il y a une ou deux exceptions à la règle que je viens d'énoncer. On peut dire que le fantastique urbain a toujours existé quelque part. Je pense par exemple au livre du grand écrivain tchèque Gustave Mérinck. Hein, dans ses livres, on trouve cette ville de Prague complètement fantastique. C'est la Prague du début du siècle ou du début de l'entre-deux-guerres. Je pense aussi par exemple à le malpertuis de l'immense genré, hein, qui est, ça c'est l'édition Marabout 62, mais ça avait été écrit 20 ans avant, pendant la guerre. Donc là, il me semble que ça, on est dans les précurseurs du fantastique urbain. Un autre aussi précurseur, me semble-t-il, que je ne résiste pas au plaisir de citer, parce que c'est un très très grand auteur de SF et de policier, c'est Frederick Brown, avec Drôle de Sabbat. Alors ça, c'est l'édition originale française de 1951, et qui a été republié plus récemment sous le titre La nuit du Jabberwock, qui est plus fidèle au titre original anglais. Donc ça, c'est l'édition chez Terre de Brume, qui est très belle, et c'est ce qui se passe à Carmel City dans l'Illinois, lorsqu'un journaliste alcoolique rencontre un groupe de fans absolus d'Alice au Pays des Merveilles. C'est totalement délirant, c'est à la limite du fantastique, mais vraiment, c'est un roman absolument remarquable. En revanche, je dirais que vraiment la première grande série de fantastique urbain, c'est la série allemande de Jason Dark, qui est le pseudo d'un Allemand qui s'appelle Helmut Rellergaard, principalement. C'est la série John Sinclair, Chasseur de Spectres, donc qui a été dans deux collections. Là, vous voyez la collection Haute Tension chez Hachette, et qui ensuite a été publiée aussi au Fleuve Noir. Et ça, c'est le premier véritable exemple d'urban fantasy contemporain et un précurseur. Alors, tenez-vous bien, c'est pour ça que je disais qu'il y a toujours des exceptions à la règle. 1800 histoires, 1800 fascicules, depuis 1973, publiés des aventures de John Sinclair, 200 millions d'exemplaires tirés au total, série quasiment inconnue en France, hein, puisqu'elle a été mal distribuée chez deux éditeurs différents, avec des couvertures en plus qui étaient particulièrement hideuses, surtout dans la collection Haute Tension. Et pourtant, fantastique urbain, John Sinclair, le chasseur de spectres, c'est un inspecteur de Scotland Yard qui traque toutes les créatures surnaturelles, tous les alliés du monde, à travers le monde, et même au-delà, puisque à un moment, il se retrouve projeté dans l'Atlantide, dans un certain nombre d'univers parallèles, etc. Bon, inutile de dire qu'avec 1800 fascicules de retard, c'est comme pour la série Perry Rodan. On ne pourra jamais lire tout ça. Si on veut vraiment le lire, il ne nous reste qu'à apprendre l'allemand. Donc, bon courage. Cela dit, c'est une série qui est tout à fait sympathique. Ensuite, autre précurseur, et pour moi sans doute vraiment l'un des premiers grands romans de fantastique urbain contemporain, c'est Megan Lindholm, qui est l'alias de Robin Hobb, avec Le Dernier Magicien. Là, c'est l'édition Pocket de 2007. L'original américain a été écrit en 1986, où donc on découvre dans Seattle le dernier magicien qui est le roi des pigeons et qui vit comme un clochard au milieu des clochards de Seattle. C'est très, très doux, amer et vraiment sensationnel. Un autre précurseur là français, c'est une série qui a été peu connue, qui est l'Agence Arkham, Enquête de l'étrange, donc aux éditions 6 petits volumes aux éditions DLM en 1997, hein, avec des auteurs français comme Francis Valéry, Boris-François Darmaudet, Sylvie Denis, Roland Wagner. Donc, petite série tout à fait sympathique, mais qui n'a connu aucun succès parce qu'elle était quasiment pas distribuée ou très très mal. Alors maintenant, je vous recommande, si on tombe dessus de temps en temps chez des libraires d'occasion, je vous recommande d'acheter ces 6 petits volumes, c'est tout à fait sympathique. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, avec un bel exemple d'urban fantasy et un succès reconnu. Hein, comme vous le verrez, là, les livres, la plupart des livres que je vais citer maintenant, c'est à partir de 2010. Hein, c'est là où on peut dire que commence à se développer le genre en France. Alors, on a d'abord Neil Gaiman avec Neverwhere, qui a été publié chez J'ai lu dans sa collection millénaire en 1998, hein, le bouquin daté de 1996 en anglais, mais qui a été republié à nouveau, hein, là, en 2011, à nouveau chez J'ai lu. Et là, c'est l'histoire de Richard. Il sauve, il trouve une jeune fille blessée, il la sauve, il trouve qu'elle est quand même bien légère quand il la porte. Et à partir de là, en fait, il devient quasiment invisible et il découvre le Londres d'en bas, qui est un monde totalement magique, roman de fantastique urbain absolument magnifique. Alors, on est à Londres, et bien entendu, la ville de Londres est l'un des territoires favoris des auteurs d'urban fantasy pour faire évoluer leurs personnages. Alors, je citerai parmi les meilleurs romans et séries, les meilleurs à mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais bien entendu, il y a L'Ombre de China Mieville, hein, où deux jeunes filles pénètrent dans la ville miroir de Londres. La ville où échouent les choses perdues ou cassées, ainsi qu'un certain nombre d'habitants, c'est du très grand China Mieville. Il y a aussi la série de Caitlin Kittredge, Les Ténèbres de l'Ombre, qui est sortie, les deux premiers volumes sont sortis chez Eclipse. Hein, c'est là où évolue Pete Caldecott, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une jeune femme, qui a été initiée à la magie à l'âge de 16 ans par son mentor Jack, qui a été ensuite tué par un démon. Elle est devenue détective dans la police londonienne et elle va devoir enquêter dans le monde de la féerie pour résoudre un certain nombre de disparitions mystérieuses. Alors, j'en profite pour glisser un mot sur les éditions Eclipse, parce que les éditions Eclipse ont été vraiment l'un des grands précurseurs en matière de publication d'urban fantasy en France. Elles ont duré 2 ans et puis elles ont disparu. Donc ce que je vais vous citer, ce sont des bouquins quand il s'agit d'Eclipse, ce sont des bouquins qu'en principe on ne trouve plus à l'heure actuelle, sauf éventuellement d'occasion. Mais comme les éditions, tout le catalogue quasiment des éditions Eclipse a été racheté par les éditions Panini, et le créateur de Eclipse a été pris comme directeur de Eclipse Panini, il m'a dit que au fur et à mesure des mois à venir, tous ces titres allaient être republiés, quasiment tout le catalogue va être republié, donc ces titres-là sont republiés ainsi que leurs suites qui ont déjà été publiées en anglais. Donc, il ne faut pas désespérer. D'ici, je pense, sans doute un an ou un an et demi, tous les titres que je vais vous citer de chez Eclipse auront été republiés et seront à nouveau disponibles. Parce que, par exemple, c'est aussi chez Eclipse qu'était sorti le très remarquable Matthew Swift, La Folie des Anges de Kate Griffin. Alors, on ne se laisse pas arrêter par la couverture excessivement hideuse. Le roman qui est le premier d'une, je crois qu'il en est sorti déjà 3 en anglais maintenant, est absolument remarquable d'inventivité, hein. On est dans un Londres où tous les objets sont imprégnés de magie, sans exception, et où Matthew Swift, le héros, va se retrouver possédé par des entités étranges qui en fait son... Alors, je vous dévoile un petit peu, mais je résiste pas. Alors, je vous casse un tout petit peu le début, mais je vous dirai rien ensuite. En fait, il est possédé par des entités étranges, donc ces anges qui sont fous. Et pourquoi sont-ils fous? Parce qu'en fait, ces anges sont les résidus, ce qu'on appelle les mèmes, les résidus de l'Internet. C'est absolument brillantissime. Et il y a des scènes de magie extraordinaires dedans. Alors, toute récente aussi, il faut saluer l'arrivée de Ben Aronovitch, qui avec la série du dernier apprenti sorcier, il y en a déjà 2 de sorties et le 3e va sortir ce printemps, nous fait découvrir un Londres où Roger, qui est un jeune policier anglo-africain, va devenir l'élève du très étrange inspecteur Nightingale, et en fait l'inspecteur Nightingale est l'homme qui assure la justice de la reine à tous ses sujets, y compris les surnaturels, dont par exemple les esprits des rivières, y compris la Tamise. C'est drôle, c'est original, c'est plein de bonnes idées, une réutilisation et une incorporation du folklore britannique le plus traditionnel, ça fait partie des choses les plus brillantes que j'ai lues récemment. Maintenant, si on quitte Londres, bien entendu, les États-Unis, avec leurs grandes villes, sont aussi privilégiés en matière de fantastique urbain. Alors, on a par exemple la série des dossiers Dresden de Jim Butcher, 5 volumes en français, beaucoup plus en anglais. Hein, Harry Dresden est le seul détective privé magicien que l'on puisse trouver dans les pages jaunes de l'annuaire de Chicago. Et donc, il a beaucoup de travail, beaucoup d'ennuis aussi, d'autant plus que c'est un type qui n'a pas beaucoup de chance, parce que sa marraine, d'une part, est une très dangereuse fée, et qu'il se retrouve entraîné à son corps défendant dans la guerre entre les fées d'été et les fées d'hiver. Plus un certain nombre de créatures surnaturelles, lui et son assistant, qui est un esprit incarné dans un crâne, ils ont beaucoup de travail. Et le pauvre Harry Dresden connaît aussi beaucoup de passages à tabac. Il n'a pas une vie facile. C'est très très amusant. Quant à Jean Bianco, qui est dans la série L'exécutrice de Jennifer Estep, c'est une tueuse à gages qui exécute tout un tas de créatures surnaturelles diverses. C'est un métier qui lui est, dont l'exécution lui est facilitée par le fait qu'elle a des pouvoirs d'élémental de la pierre et de la glace, et ça ne l'empêche pas en même temps de tenir un restaurant à Ashland en Caroline du Sud, où je vous recommande d'aller, puisqu'il sert le meilleur barbecue de porc de tout le sud des États-Unis. On peut rester aussi dans le sud profond avec la série Charlie Madigan de Kelly Gay, donc chez Eclipse, où existent dans un plan parallèle des êtres supérieurs qui sont divisés en deux parties et demie. Il y a les habitants d'Elysia et ceux de Charybdon, et ils se battent chez nous à Atlanta, parce que c'est Atlanta qui a le plus grand portail pour venir de ce plan parallèle. Et en plus de ça, ils se sont reconvertis, ils ont trouvé que le meilleur moyen, c'était de régner sur les bas-fonds de la ville d'Atlanta. Et c'est donc à Charlie Madigan de faire régner l'ordre, parce que c'est une détective très efficace, surtout qu'elle fonctionne dans un tandem excellent avec son partenaire Hank, qui est un triton. Mais triton au sens d'homme sirène, hein, je précise, pas la petite bête. Toujours en Géorgie, on trouve Kate Daniels, hein, de Ilona Andrews. Là aussi, on est toujours à Atlanta, mais c'est une Atlanta qui est parcourue par des vagues technologiques et des vagues magiques en alternance. Alors, quand c'est la vague magique, les téléphones portables, les ordinateurs, les voitures, etc. ne fonctionnent quasiment plus. Et quand c'est la vague technologique, les pouvoirs magiques sont au plus bas. Donc, c'est à Kate Daniels, qui est une mercenaire, de faire régner l'ordre dans tout ça. Et elle a beaucoup de travail, fort heureusement pour nous, parce que vraiment, on se régale avec cette série. Si on traverse maintenant tout le continent américain, on se rend dans la pluvieuse ville de Seattle, où Harper Blaine, la série de Kate Richardson. Harper Blaine est une détective privée qui est devenue une arpenteuse de brume après être cliniquement morte pendant 2 minutes. Et donc cela lui a donné le pouvoir de distinguer toutes les créatures surnaturelles, et Dieu sait qu'il y en a à Seattle. Maintenant, on retraverse les États-Unis dans l'autre sens et nous allons dans la ville qui ne dort jamais, à New York, où se déroule la jolie série de Rob Thurman de Cal Leandros. Ce sont les aventures de deux demi-frères. Donc Cal, lui, n'est qu'à demi-humain et il est protégé par son grand frère qui, lui, est totalement humain, mais qui est un spécialiste de tous les arts martiaux et qui donc a élevé et protégé son petit frère. Et c'est dans une New York fantastique habitée de créatures diverses, dont pour moi l'une des plus belles est le troll qui habite sous le pont de Brooklyn. Remarquable. C'est aussi dans cette ville de New York que démarre l'excellente trilogie là d'un auteur français, Frédéric Petitjean, avec sa trilogie des Dolce. C'est paru chez Don Quichotte, et on fait les dolces, ce sont les aventures de la dernière famille de magiciens qui existe encore au monde. Hein, donc la famille des dolces, ils sont installés à Brooklyn dans un bus impérial déguisé en maison, c'est tout à fait drôle, plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, etc. C'est hilarant, et donc ces pauvres dolces ont fort à faire pour lutter contre la mainmise sur le monde de la guilde des sorciers, et les sorciers en fait sont des magiciens qui ont succombé à l'appel du mal. Et dans le deuxième volume, leurs aventures se prolongent maintenant à Paris, à Londres, à Yokohama. Donc à la fois à travers l'espace et le temps, c'est absolument remarquable. Je vous le recommande vivement. Alors maintenant, venons-en. J'ai quand même essayé de distinguer là aussi dans l'urban fantasy. Je pense qu'on peut distinguer ce que j'appellerais des sous-genres ou des variantes. Alors, la première et sans doute la plus importante en nombre de livres, c'est la variante sorcière. Alors, curieusement, mais ça c'est peut-être l'héritage des procès de sorcellerie de Salem, ces romans avec des sorcières se déroulent tous aux États-Unis. Et je dirais que là, le grand précurseur donc de cette variante sorcière de l'urban fantasy et en même temps exception à la constatation que j'avais émise au début qu'il s'agit souvent de romans uniques ou au plus de trilogies, ben pour moi, c'est d'abord, premier grand précurseur, c'est donc Mary Poppins, hein, de Pamela Lyndon Travers, donc, qui date de 1934, hein, qui a beaucoup fait rêver des générations, et que, bien entendu, Mary Poppins a obligatoirement les traits de Julie Christie. Il y a eu un autre grand ancêtre, Ma femme est une sorcière, de Sam Smith, hein, qui date de 1941, très bonne réédition chez Terre de Brume en 2005 que je recommande. Et ensuite, et c'était là les exceptions aux règles, ce sont les équivalents pour l'urban fantasy de ce qu'a été Buffy contre les vampires pour la Pitlite, hein, avec deux séries télé à succès. Donc d'une part Sabrina, l'apprentie sorcière, dont les novélisations sont sorties chez Pocket entre 2000 et 2005, donc près d'une quarantaine de volumes en français, plus que ça encore en anglais. Et d'autre part, bien entendu, la série Charmed, une novélisation de la série télé qui est sortie au fleuve, là aussi, entre 2000 et 2007. Là aussi, une quarantaine de volumes en français, beaucoup plus en anglais. Donc, les aventures des trois sœurs sorcières à San Francisco. Donc, ça, vous voyez, pour moi, ce sont vraiment les grands précurseurs de la fantasy urbaine en France. Et lancée vraiment grâce à des séries télévisions. Alors, dans des séries plus récentes, variantes sorcières, on trouve Rachel Morgan de Kim Harrison. Hein, où Rachel est une sorcière détective à Cincinnati, mais c'est un Cincinnati du futur proche, donc c'est pour ça que je l'ai inclus. C'était pour moi à la limite, hein, par rapport à l'urban fantasy qui doit se dérouler dans une ville contemporaine, c'est à Cincinnati où, dans lequel la ville ainsi que le monde entier, il y a un virus qui a décimé toute une partie de la population, ce qui a permis aux créatures surnaturelles de pouvoir réapparaître avec beaucoup moins de problèmes. De même, on a dans la série de la fille du soleil noir de MLN Hanover, Jen Heller, la fille du soleil noir, hérite de son oncle à la fois sa fortune et des pouvoirs magiques qu'elle découvre. Et elle découvre aussi qu'il y a une cabale de sorciers contre laquelle son oncle luttait, et ça fait partie, la lutte contre cette cabale fait partie de son héritage. Et donc c'est soit la Nouvelle-Orléans, soit Chicago, donc des grandes villes, qu'elle fait cette lutte. Et ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est qu'elle doit faire ça avec l'aide d'un petit groupe hétéroclite, dont un vieux vampire, et dans lequel elle essaye de s'intégrer parce qu'ils se connaissent tous depuis très longtemps, étaient tous déjà des associés de son oncle, et donc elle est un peu la pièce rapportée, et ils sont obligés de faire avec. C'est vraiment du point de vue, c'est ce dont je parlais au début. Là encore, l'auteur s'intéresse beaucoup plus à la psychologie des personnages qu'à une histoire d'amour sans intérêt. Autre série amusante dont le premier volume est sorti, c'est Enchantment Emporium de Tanya Huff, qui se déroule à Calgary, au Canada, où l'héroïne se débat entre sa famille de sorcières particulièrement envahissantes, qui n'arrêtent pas en plus de faire des pâtisseries délicieuses, donc c'est mauvais pour le régime. Elle se débat donc entre sa famille de sorcières, tous les cousins qui sont eux en rut, et véritablement en rut, puisque ce sont tous des avatars du dieu Cernunnos, et enfin des seigneurs dragons qui sont déchaînés, et tout ça en essayant de faire tourner sa boutique de magie, donc son Enchantment Emporium, qui en plus de ça a une clientèle qui est plus que curieuse, donc c'est vraiment très très amusant. Tout à fait récemment vient d'avoir le premier volume des Sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz chez Orbit. Donc là, on a affaire à trois sorcières qui incarnent trois déités nordiques déchues. Elles vivent à l'extrémité de Long Island, dans la ville de Northampton, qui, pour ceux qui connaissent bien Long Island, savent que c'est la seule qui n'existe pas. On a Westhampton, Easthampton et Southampton. Il n'y a pas de Northampton. Évidemment, c'est la ville qui est cachée quelque part avant Montauk. Et c'est un petit peu comme lorsqu'on va à Brigadoon. C'est au bon moment, si on prend le bon embranchement, là on peut y accéder. Et donc c'est tout à fait sympathique, cette histoire curieuse où les dieux anciens ont perdu leur pouvoir suite à l'absence de croyance en eux, et en plus de ça ils se livrent à des guerres intestines. Cette thématique d'ailleurs des dieux qui ont perdu leur pouvoir en urban fantasy, on trouve ça dans un roman français par exemple excellent, hein, qui se déroule à Las Vegas. C'est Christophe Lambert avec Vegas Mytho, où les dieux grecs et les dieux égyptiens sont devenus des familles mafieuses qui se battent pour dominer les casinos de Las Vegas. Excellent. On trouve aussi alors une variante démoniaque de l'urban fantasy qui a commencé sans doute avec John Lang et le Bouclier Obscur, hein, sorti chez Rivière Blanche, qui se déroule à Paris et qui démontre que les voies de l'Internet, contrairement à celles du Seigneur, ne sont pas impénétrables aux démons. Toujours dans les démons, on a Marjorie Liu avec la série Démoniaque, qui nous fait partager l'ordinaire de Maxine Kiss, qui est une chasseuse de démons, qui a la particularité d'avoir des tatouages vivants qui l'aident dans sa traque. Mais alors, ces tatouages ne deviennent vivants que de nuit, et donc il la quitte, ces deux petits démons qui la quittent, et à ce moment-là, elle revient humaine et vulnérable. Par contre, pendant la journée, comme ils sont à l'intérieur d'elle, et sur sa peau, elle est totalement invulnérable. C'est tout à fait curieux et original. Alors, si on reste dans les démons, et pour changer, là, une série jeunesse, il n'y en a pas tant que ça en urban fantasy, mais une série jeunesse très drôle, dont le héros, Nathaniel, est au contraire le protecteur et le gardien de démons, qui sont pour la plupart sympathiques. À San Francisco, c'est la série Démons de Royce Buckingham, chez Castelmore, deux volumes déjà sortis. On peut revenir alors à du plus classique, avec la série de Diana Rowland, Cara Gillian. Alors Cara Gillian est un flic qui invoque des démons pour ses enquêtes en Louisiane. Là, on est aux marges du genre, puisque l'action se déroule dans un tout petit patelin dans les bayous. Mais bon, on est à quelques miles de la Nouvelle-Orléans. Je l'ai inclus, d'autant plus que j'aime bien la série. Donc j'avoue que dans ce cas-là, je n'hésite pas à faire une exception. Alors, plus original, là, vous avez noté hein, que souvent, les héros ou les héroïnes sont soit des flics, soit des détectives privés. Alors là, plus original, on a une psychologue qui se sert de ses pouvoirs pour traiter ses patients et qui, sur un quiproquo, parce qu'elle vient de lancer son émission de radio, et elle propose dans son émission de radio d'aider les auditeurs à se débarrasser de leurs démons intimes. Et évidemment, pour elle, ces démons intimes, au sens psychologique du terme, manque de chance, bah, les vrais démons intimes de tous les auditeurs prennent ça pour eux, et ils le prennent très mal, ils se disent « Tiens, elle veut nous tuer !» Bon, ben bah, évidemment, ils vont se mettre à intervenir. C'est la toute nouvelle série de Stacia Ken qui s'intitule Megan Chess. Megan étant la psychologue en question. Premier volume vient juste de sortir et c'est tout à fait amusant. Alors, d'autres personnages aussi qui sont très prisés du fantastique urbain et que j'ai distingués en sous-genre, ce sont bien entendu les fées. Alors, on commencera par un roman qui est un one-shot absolument extraordinaire. C'est « Les petites fées de New York » de Martine Millar. L'original a été écrit en 1992. Ça n'a été traduit qu'en 2009 en France. Alors là, c'est d'une drôlerie. Les petites fées en question, ce sont des bouseuses irlandaises alcooliques qui découvrent New York suite à une cuite monumentale. Elles se sont endormies et retrouvées chargées dans des caisses qui sont parties pour New York. Et elles réussissent en débarquant à atteindre Central Park. Et elles déclenchent un bazar invraisemblable avec l'effet de Central Park. Elles déclenchent une guerre entre les fées et tout. Enfin, c'est d'une drôlerie et en même temps d'une finesse absolument remarquable. Alors, plus récemment, on a aussi la série de Shannon Maguire, October Day, hein, c'est sorti en Dark Light Pygmalion, où là, les fées mènent leur guerre dans un San Francisco où multiples lieux enchantés, tout à fait intéressant. Et puis, bien entendu, par la très célèbre auteure de la série Anita Blake, Laurel K. Hamilton, on a la série Mary Gentry, hein, qui là aussi décrit sur de nombreux volumes des conflits féeriques divers. Alors, je ne résiste pas non plus au plaisir d'établir une variante du fantastique urbain appelée la variante esprit fantôme nécromant, dans laquelle j'ai placé par exemple la série de Mike Carey, Félix Castor, exorciste et détective privé, où ce bon Félix exerce à Londres. Alors là, c'est dans un univers qui n'est pas tout à fait le nôtre, puisque l'existence des créatures surnaturelles, des fantômes, des démons, etc., est connue, hein, est reconnue. Et donc Félix Castor exerce à Londres, où il passe son temps où il est détective privé pour retrouver les fantômes de gens qui ont disparu pour les familles éplorées, et en même temps il combat pas mal de démons. C'est tout à fait amusant et il semblerait que ça n'ait pas eu beaucoup de succès auprès du lectorat français, puisqu'il n'y a eu que 2 volumes de traduits chez Bragelonne, alors qu'il doit y en avoir 4 ou 5 en anglais. On trouve aussi autre grand auteur de la Limited, c'est Charlène Harris, qui là a écrit une très jolie série qui s'appelle Les Mystères de Harper Connelly. C'est une tétralogie dans laquelle on trouve une jeune fille qui a été touchée par la foudre, et donc quand elle est revenue après avoir été foudroyée, elle distingue les esprits des morts. Et donc, elle voit les esprits des morts, et donc, elle exerce comme consultante pour retrouver les cadavres des gens disparus. Là, on est dans le sud profond, elle écume tous les petits patelins de l'Arkansas, du Missouri, de l'Alabama, etc. Mais comme j'aime beaucoup cette tétralogie, et qu'en plus, à l'origine, Harper Connelly est quand même basé à Saint-Louis dans le Missouri, ben je l'ai intégré. Alors, il ne faut pas oublier non plus la nouvelle série de Darinda Jones, Charley Davidson, où Charley est la faucheuse qui aide les esprits à passer de l'autre côté. Donc, et en même temps, elle est détective privée et consultante pour la police dans un endroit qui n'est pas très souvent utilisé. C'est pour ça aussi que je trouve ça tout à fait sympathique. Elle exerce à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. Je vais terminer parce que le temps passe. Alors, je vais terminer avec quelques romans que l'on peut considérer comme étant vraiment aux marges de l'urban fantasy. Ils sont, pour certains, quasiment inclassables. Mais comme ce sont des romans que j'ai tous trouvés excellents, on peut peut-être les qualifier plutôt d'urban fantasy historique, un peu comme il y a par exemple du polar historique. Alors, le premier de ces romans, c'est Lilliputia de Xavier Mauméjean, qui se déroule dans le parc de Coney Island, au tout début à New York, au tout début du XXe siècle. C'est un Coney Island complètement fantasmagorique, etc. C'est brillantissime. Ensuite, il y a la série de Gail Carriger, du Protectorat de l'Ombrelle, 4 tomes déjà sortis chez Orbit, j'ai appris que Gail Carriger serait en France au mois de mai. Hein. Elle participera à Étonnant Voyageur et aux Imaginales. Donc, j'espère, je pense qu'elle passera sans doute aussi à Paris. Et donc, dans le Protectorat de l'Ombrelle, on a la très chère Alexandra Tarabotti, Lady Macon, qui se bat contre créatures surnaturelles et savants fous, tous plus surnaturels et plus fous les uns que les autres, dans un Londres magico-steampunk complètement délirant, où les créatures surnaturelles ont fait leur coming out à la Renaissance, puisque l'espèce humaine devenant plus éclairée, il ne serait plus poursuivi, et donc où la reine Victoria a un ministre vampire et un ministre loup-garou, plus Alexandra Tarabotti, qui est sans âme, et donc peut combattre ainsi toutes les créatures surnaturelles. C'est sans doute l'une des meilleures séries que j'ai lues ces dernières années, et au quatrième volume, c'est toujours, toujours aussi drôle et toujours aussi délirant. Londres encore, avec les enquêtes extraordinaires de Newbery et Hobbs, dont le premier volume, c'est écrit par George Mann, dont le premier volume a été traduit chez Eclipse en 2011, et puis malheureusement, comme Eclipse s'est arrêté, on n'a pas eu droit à la suite, mais je pense que ça fait partie de ce qui va être traduit bientôt, où là aussi on est dans un Londres victorien, fantastique et steampunk, où Sir Newbery combat des entités surnaturelles et des savants fous là aussi, et il est aidé par son assistante, la belle Miss Hobbs, qui en fait sous ses doigts de secrétaire stylé, est en fait un agent secret de la reine Victoria, et une reine Victoria qui ne survit que grâce à son fauteuil roulant à vapeur dans lequel elle est branchée à plein de tuyaux. C'est très très drôle et tout à fait remarquable. Londres victorien toujours, là qui est devenu le refuge des persécutés surnaturels de toute l'Europe, dans les enquêtes d'Hector Crine de Stéphane Tamayon, un auteur français, il faut le souligner, donc où Hector Crine déroule ses enquêtes dans un Londres à la fois féerique et fantastique, hein, où en fait donc toutes les créatures surnaturelles sont devenues ce lumpen prolétariat exploité qu'a dénoncé Karl Marx dans son ouvrage célèbre. Ce sont des romans qui sont bourrés de références et de clins d'œil, d'une part à toute la littérature fantastique classique, et d'autre part à toutes leurs adaptations en film. Vraiment, c'est de la littérature jeunesse que les adultes, dont les adultes peuvent apprécier tout le sel. Je crois que Stéphane Tamayon, Stéphane Tamayon sera d'ailleurs là demain et après-demain, si vous avez envie de le rencontrer. Et je recommande chaudement ses livres, comme je recommande aussi Magie secrète d'Hervé Jubert, dont le premier tome vient de sortir, où là aussi nous sommes par contre à Paris, mais un Paris habité par des créatures surnaturelles féeriques, sous le Second Empire, mais un Second Empire dans lequel on connaît depuis toujours l'existence de ces créatures. Et Hervé Jubert, mis à part un sens de l'humour redoutable, a fourni aussi dedans une très très belle explication, très intelligente, de la raison pour laquelle l'empereur a ordonné au baron ici Hoffmann de faire ses grands travaux et donc de tracer ses grandes avenues et de détruire la majeure partie du vieux Paris moyenâgeux. C'est très intelligent. Paris toujours, mais alors là un peu plus tard, Paris de la Belle Époque, avec les extraordinaires et fantastiques enquêtes de Sylvo Sylvain, détective privé, de Raphaël Albert, deux volumes chez le Nemos, où Sylvo Sylvain est un elfe qui mène ses enquêtes dans une France où là aussi les créatures surnaturelles ont toujours coexisté en étant connues des humains. Alors maintenant, allons dans des États-Unis tout à fait particuliers de l'entre-deux-guerres, où coexistent dirigeables et pouvoirs magiques. Ce sont les très étonnantes chroniques du Grimm Noir de Larry Correia, dont le premier volume Magie Brute est sorti l'année dernière. Le second tome devrait sortir au printemps. C'est vraiment très curieux et donc quasiment inclassable. Et enfin, pour finir, rendons-nous dans le Caire des années 30 avec, grâce à Sylvie Miller et Philip Ward, qui nous ont donné Lasser, détective des dieux. Et donc, dans ce Caire des années 30, les dieux n'ont jamais cessé de régner sur les humains et vivent avec eux. Et où donc ce pauvre Lasser, qui a dû fuir la mafia gallo-romaine implantée dans la Gaule narbonnaise, est devenu le détective privé souffre-douleur attitré de tout le panthéon égyptien. C'est hilarant. Est vrai, et en plus de ça, ce sont des pastiches d'enquête de polar noir des années 30. C'est très drôle. Et d'ailleurs, Philip Ward et Sylvie Miller seront aussi là ce week-end. Donc, si vous ne connaissez pas Lasser, détective privé sur le Nil, je vous recommande chaudement de faire cette découverte, de passer un bon moment. Donc, après ce petit coup de pub gratuit, j'ai pas d'action, pour conclure, donc, comme vous le voyez avec ce tour d'horizon très rapide, le genre fantastique donc, est en constante évolution, et le fantastique urbain, cette magie de tous les jours qui emplit nos villes, est, me semble-t-il, le champ d'expérimentation et de créativité le plus original des littératures de l'imaginaire en ce moment. Merci pour votre attention. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour des questions.
Je crois que non, il y a une table ronde à 11h30.
Ah oui. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions...